ma grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. Eh bien, cette semaine, nous allons retrouver Jeanne Gamonnet pour la fin de l'entretien que j'ai eu avec elle. Alors, je vous rappelle quand même que Jeanne Gamonnet est licenciée de sanskrit, elle possède une maîtrise de romanie et elle est en train de passer un doctorat de langue romanie. Elle a aussi énormément écrit pour la télévision. Et avant de l'écouter, pour nous mettre dans l'ambiance, nous allons écouter un petit morceau de musique. Un petit morceau de musique qui nous vient du sud de la France par un grand monsieur du monde gitan, puisque sans lui les Gypsy Kings n'auraient jamais existé. Il s'agit de monsieur José Reyes. Et alors, je vais revenir un petit peu sur l'histoire, enfin, d'une certaine façon.
Ah oui ?
Je veux dire simplement, est-ce que tu connais, et je suppose que oui, il y a eu un bouquin qui est sorti dans les années 50, 70, et qui s'appelait Les Tziganes, qui a été écrit par un...
Kléber.
Qu'est-ce que tu penses de ce bouquin ?
C'est un peu romantique. Il y a des choses qui sont certainement vues et entendues, mais c'est pas un bouquin d'historien vraiment. Si ça t'intéresse, moi j'ai fait une petite brochure qui s'appelle 100 étapes de la longue marche des Roms et qui part de l'Inde avec les dates vraiment attestées, ou comme je te disais tout à l'heure, ce sont des percepteurs, des militaires, des gens des mairies, des gens des couvents, etc., qui ont dit « tel jour sont arrivés des tziganes en troupe qui ont fait ci, fait ça ». Kléber, c'est pas mal, si tu veux, mais bon... Bon, il y a un bouquin qui s'appelle « Tziganes » qui a été fait par un prof de Paris 5 qui s'appelle Jean-Pierre Liégeois, qui est bien fait, extrêmement sérieux, extrêmement documenté. Il y a quelqu'un que j'adore, je ne l'ai jamais vu, il habite au Texas, à l'université d'Austin, professeur à l'université d'Austin, qui s'appelle Ian Hancock. Mais on n'arrête pas de s'envoyer des mails, et il a écrit des bouquins seulement, voilà, c'est en anglais, il faut savoir l'anglais. Il a écrit des tas de choses très très intéressantes. Il y a eu aussi un tzigane turc, qui s'appelle Adrian Marsh, qui a écrit « No promised land », ça veut dire « pas de terre promise », et qui parle aussi de tout ça. Il y a eu des tas. Si tu veux, je te ferai une petite liste de tous les gens qui ont pu écrire ceci, écrire cela. Il y a eu des Hollandais, il y a eu des Allemands, il y a eu... Écoute, pour faire une... vraiment... un bouquin sérieux, bien écrit, liégeois, comme s'il habitait Liège, il habite Paris. Professeur liégeois, Jean-Pierre Liégeois, ça s'appelle Les Tziganes. Voilà. Alors pour, en ce qui concerne les Tziganes français, il y a Henriette Asseo, qui fait partie de l'école des hautes études en sciences sociales, qui est une très très bonne historienne. J'ai suivi ses séminaires pendant 4 ans, mais elle commence en Europe. C'est ce qui s'est passé avant qui reste un peu flou. On trouve par-ci, par-là, mais je te ferai une liste.
que tu as encore, toi, puisque t'es métis, j'allais dire, est-ce que tu as, toi, des contacts à l'heure actuelle, enfin, ou ces dernières années, avec des tziganes qui vivent encore la tradition?
Oui. Oui, j'en ai rencontré. J'ai été pendant 4 ans avec Esmeralda. Nous sommes allés au Forum des Roms et gens du voyage à Strasbourg. J'ai rencontré un tas de gens intéressants, des voyageurs. Alors là, il faudrait demander à Milo, parce que Milo, il y a Joseph Zanko aussi.
Mais c'est des gens qui vont participer à ces émissions. Mais ce que je voulais te demander, c'est ton avis sur... on a toujours des clichés comme ça sur les tziganes. Alors oui, c'est des voleurs de poules, mais c'est surtout, il y a un cliché qui est peut-être une réalité, j'en sais rien, c'est que c'est des gens qui ont des traditions et qui les ont fait perdurer, ces traditions, à travers le temps. Je parle par exemple du respect des anciens, je parle par exemple de ce qu'on appelle la crisse.
J'allais t'en parler de la crisse, parce que on nous dit...
Alors explique ce que c'est que la crisse, parce qu'on balance un mot là comme ça.
La crisse, c'est très simple, c'est un tribunal coutumier. Il ne juge pas les affaires qui peuvent concerner les gadjés, les non-roms. Ce sont des choses qui se passent dans une communauté. Et la crisse, c'est très intéressant, parce que c'est une sorte de tribunal. Il faut que ça soit en nombre impair. Les juges, il faut qu'ils soient 5. Évidemment, s'ils sont en nombre pair, si on a la moitié qui dit ci, la moitié qui dit ça, ça ne marche pas, tu n'auras jamais un jugement. En nombre impair, en général, c'est 5. Toujours des hommes. Les femmes peuvent naturellement venir à la crisse. Elles peuvent être témoins, elles peuvent être accusées, elles peuvent être accusantes, elles peuvent dire ce qu'elles ont à dire. La crisse. Et la crisse, c'est très 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 ancien. Figure-toi que ça vient de l'Inde. Ce qu'on appelait le panchayat en Inde, parce que panch, en langue indienne, ça veut dire 5. Un panchayat, c'était pas spécialement à une tribu ou à une caste ou à un groupe. Un panchayat, c'était un tribunal coutumier de 5 juges qui sont des gens respectables, honorables, des pères de famille qui n'ont jamais battu quelqu'un, qui ne sont pas trop alcooliques, qui ont pas 18 femmes, qui ne font pas des bêtises. Non, c'est des gens très, très, très respectés. Et alors, ce panchayat, il jugeait les affaires internes. Et c'est une tradition qui a continué. Il y a une dame, sociologue, mais complètement rome, une hongroise superbe qui s'appelle Melinda Rezmouves, qui est venue un jour à l'INALCO, à l'école des langues orientales à Paris, nous faire un séminaire de plusieurs heures sur ça, la crisse et le serment. Alors en principe, la prestation de serment, on n'a pas trop le droit d'en parler. Mais bon, c'est la façon dont on prête serment, parce que... Et la crisse, le tribunal, peut prononcer des peines, et la peine la plus terrible, c'est l'exclusion de la communauté. Il peut y avoir des exclusions temporaires. Si tu as fait des bêtises, pas trop trop méchantes, tu peux être exclu pour un an. Alors tu t'en vas, mais tu peux revenir. Mais il y a quand même, parce qu'ils ne sont pas si machos qu'on le dit, les tziganes, il y a quand même une institution qui s'appelle le divano. Ça vient du persan diwan, qui veut dire... le conseil, l'assemblée, le gouvernement. Un divano, c'est une assemblée de femmes. Et c'est d'ailleurs une tradition qui est complètement partagée par les Turcs. Les Turcs anciens qui viennent d'Asie centrale, ils avaient ça, une sorte, pas de tribunal, mais une sorte de... C'est une assemblée, voilà, de femmes, où elles se racontaient des choses, où elles disaient ce qui se passait, ce qui les ennuyait, ce qu'elles avaient vu, et il y avait aussi de la divination. Voilà. Mais je ne sais pas si ça existe encore. Mais j'ai une copine, je dirais pas deux copines, je ne dirais pas leur nom, qui ont fait un jour un divano dans la Seine-Saint-Denis, il n'y a pas longtemps. Voilà.
Sagesse et humour du peuple rom. Proverbe. C'est quand on se met à apprendre qu'on voit combien on est ignorant. C'est en vain que l'ivrogne dit à son fils « Ne t'enivre pas ». En frappant, on n'arrive à rien avec un enfant. Il faut savoir lui parler. Il y a aussi quelque chose qui fait partie du, j'allais dire, du folklore sur les tziganes, c'est tout le côté divination, magie, ligne de la main, enfin toute une croyance au surnaturel aussi.
Alors, tu vois, je prends le bol de café que je t'ai apporté tout à l'heure. Je fais, avec mon pouce, dans le marc de café, je mets mon pouce dans le marc de café, et je fais venir sur le bord de la tasse, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je fais les quatre points cardinaux, et je regarde ce que ça fait comme image. Ça, on dirait un oiseau qui s'envole. Ça veut dire tu vas voyager. Ça ressemble plutôt à une tête de vache. Ça ressemble plutôt à quelqu'un qui s'en va. Tu vas, ça, c'est un signe de voyage. Dans ton bar de café, il y a un signe de voyage. Évidemment, le plus beau, le plus auspicieux, on dirait, ça serait de voir un cheval. Quand tu vois une tête de cheval ou un cheval entier, ça, c'est le bonheur qui va t'arriver.
Et t'as appris, donc ?
Ouais, comme ça.
Non, mais...
En famille ?
Oui, t'as été enseigné.
Ah oui ? Et puis, après, quand j'ai travaillé à Médecins du Monde, ça m'a ravivé tout ça, tout ce que j'avais appris. Et puis, j'ai une copine britannique. Elle, alors là, c'est la grande chef pour lire dans les cartes. Elle bat les cartes à toute allure. Elle te dit, tu penses à quelque chose. Tu ne me le dis pas. Elle met les cartes, elle les range selon un ordre donné. Et puis elle voit, elle te dit, tiens, soulève cette carte avec les tarots. Voilà.
Et ça marche ?
Souvent. dans la main. Nous, on le fait à la main gauche. Je ne sais pas, il y en a peut-être qui le font avec la main droite. Pourtant, la gauche, ça a une mauvaise réputation. J'ai vu l'autre jour, dans un bouquin, un bouquin qui venait de Bucarest, une photo représentant des tziganes qui discutaient de la culture et tout ça. Et ils expliquaient en romanie, au milieu, il y a monsieur un tel, à droite, Zervorig, il y a monsieur Aten. À gauche, c'est Zervorig. À droite, c'est Dachnorig. Et puis, en haut, tu as... Ils mettent Bangorig. Ça veut dire le côté mauvais, le côté maléfique. C'est le côté gauche. D'ailleurs, en France, on dit aussi de la main gauche.
Hein? Mais dans beaucoup de pays et dans beaucoup de civilisations, la gauche,
c'est pas...
Ouais, ouais. D'ailleurs, les gens de droite disent que les gens de gauche sont pas terribles.
Et alors... Sacré gens de droite. Alors là, pour être des ennemis des Tziganes, c'est pas mal. Je sais bien que dans tous les moments de crise économique, il faut trouver un mouton noir. Il faut trouver un responsable. Il faut trouver... Bon.
Et alors, je vais revenir sur toujours les traditions et les choses que, comme ça, les gadgets ont entendues. Les Saintes Marie, Sarah la Noire.
Ah oui, ça marche beaucoup. T'as remarqué que j'avais une jupe assez longue?
Oui.
En principe, on met pas des jupes courtes hein, quand on respecte les traditions. Je veux dire que je les respecte pas vraiment. Moi, d'abord, je suis une métisse, mais je respecte quand même les grands principes traditionnels. Je mettrai jamais une mini jupe. Même si j'avais 15 ans, hein, faut pas, non. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, la jupe longue. Je peux dire des choses amusantes?
Oui, bien sûr.
Alors, il y a plusieurs... D'abord, on montre ses jambes qu'à son mari, ou à d'autres dames, ou alors à la famille. Tu peux montrer tes jambes à ton petit frère, à ton fils. Ton père veut voir tes jambes, c'est pas méchant, toi. Mais il faut pas montrer à un monsieur qui est pas de la famille, il faut pas lui montrer tes jambes. Et puis, il y a une superstition qui vient de très longtemps, qui vient d'Inde, et que le grand poète Federico García Lorca a magnifié dans un très beau poème qui s'appelle « Preciosa et le vent ». Parce que le vent, attention, attention à lui, le dieu du vent, il n'est pas sérieux, il rentre sous les jupes. Alors, faut avoir des longues jupes pour éviter que le vent... Et on ne sait pas très bien ce qu'il va y faire. Et dans le poème de Lorca qui s'appelle « Précieuse et le vent dit des choses que je ne dirais même pas à ce micro, parce que c'est pas... Il dit « Relève donc ta jupe, gna gna gna, etc. » Vous vous imaginez bien. Et la petite gitane à qui il dit ça, elle court, et elle arrive à lui échapper. Et le dernier vers de ce magnifique poème, c'est... Elle arrive à lui échapper et elle raconte après, elle va se réfugier dans une tour qui est habitée par des Anglais qui la recueille. Et pendant qu'elle raconte, mientras cuenta la aventura a esa gente, pendant qu'elle raconte cette aventure à ces gens-là, en las tejas de Pizarra, El viento furioso muerde. Le vent furieux sur les tuiles du toit, il est mort, tellement il est furieux de ne pas avoir pu s'emparer de la jeune fille. Il mord.
Voilà. Remarque qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher Federico García Lorca. Brassens, ça fait ça très
mais
bien.
Oui, mais bien sûr, Brassens, ça fait très bien.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutres et les gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de colle un tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau.
Oui, mais alors, tu m'as parlé des jupes, c'est très bien d'ailleurs, ça, c'est très intéressant. Mais moi, je voulais te brancher sur les Sainte-Marie et sur Sarah la Noire.
Alors, Sarah la Noire, ça, c'est formidable, parce que c'est une sainte. Elle est très sainte. D'abord, nous avons décidé qu'elle était sainte, donc elle est sainte. Elle n'a jamais été canonisée par le Vatican, mais elle est sainte. C'est comme ça. Alors, dans la grande église des Saintes-Marie de la Mer, quand tu rentres, tu as toute l'église normale, de moyenâgeuse, avec une espèce de grand parallélépipède rectangle, là, avec des glaces où tu vois ce qu'on appelle les châsses, c'est-à-dire les restes, les os, des bijoux, des machins, tout ça, de Sainte Marie Jacobée et Sainte Marie Salomé, qui sont venus sur une barque sans voile et sans rame, jusqu'en Provence, pour échapper aux persécutions. Elles avaient une servante qu'on appelait Sarah la Noire. Et ça aurait été la première gitane. Mais ça, c'est la tradition. Hein. C'est très beau, c'est très légendaire. Et ça aurait été la première grande gitane. Et elle les protège. Elle les protège. Quand tu es dans cette église-là, parce que je m'égare, et que tu descends dans la crypte, alors c'est plus du tout la même chose. Il y a des bougies, des centaines de bougies allumées, et il y a la statue de Sarah la Noire. Et il y a des femmes gitanes qui viennent faire un bisou sur le bord de la... Et elle a plein de manteaux, et de robes, et de capes, et de bijoux, exactement comme les déesses indiennes. Parce que moi, en Inde, j'en ai vu, qui avaient exactement comme ça, qui étaient vêtues exactement comme Sarah la Noire. Et elles se mettent à genoux, etc. Et les gadgets, ils n'entrent pas là-dedans. Et on peut... prier Sarah, et il y a des ex-voto, il y a des petits cartons ou du fer gravé ou de la peinture avec « Oh Sarah, merci, tu as sauvé mon mari de la guerre, merci, tu as sauvé mon fils de la diphtérie, merci, tu m'as fait gagner ma vie, merci ceci, merci cela ». Et ils sont très pieux, les gitans qui viennent aux Saintes-Marie de la Mer. Et il y a eu un gadjo très sympathique qui s'appelait le marquis de Baroncelli, Un aristocrate provençal qui, au XIXe siècle, a protégé les gitans et a protégé ce pèlerinage, parce que, naturellement, il y a des municipalités de droite qui disent « Oh, ben, ça fait du désordre, gna 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 ». Mais ça continue. Je te montrerai des... Il y a des très beaux... j'ai un très beau bouquin de photos magnifique. Et moi, écoute, j'ai beau être en train de faire une thèse, parce que j'ai mon côté très... très universitaire, très sérieux, très mathématique et tout ça. Mais j'ai aussi mon côté gitan, mon côté de zigane. Tout ça, ça fait une personnalité très mélangée. Et j'ai dans mon sac, depuis au moins 30 ans, j'ai une carte postale qui représente une photo de Sarah la Noire et elle ne me quitte pas. Elle ne me quitte pas, elle me porte bonheur.
Et je vais en rajouter une couche sur ce pèlerinage.
Oui, oui, oui.
C'est que...
qu'est-ce que c'est beau.
Alors, moi, j'ai jamais été, je vais y aller cette année.
Oui, moi, j'y ai été 3 fois.
Et le vivre de l'intérieur, puisque...
Ah oui,
pas en tant que touriste, quoi. En tant
et t'entends de la guitare toute la nuit.
Voilà. Mais moi, il y a une chose qui est... Je reviens sur le baron, c'est que ce pèlerinage, il est... Il y a les gitans, d'accord, mais il y a aussi les arlésiens, enfin les...
Ah oui, il y a des provençaux, il y a des
gens à cheval, là, et ça a un nom.
Les gardiens.
Les gardiens, voilà, qui participent.
De Camargue.
Oui. Mais c'est vraiment un double pèlerinage.
Oui, oui, oui,
pas,
oui, 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 oui.
Il n'est pas exclusivement gitan, quoi.
Mmh, c'est vrai.
Mais ça me paraît important, parce que ça prouve quand même que, en partie grâce au baron de Baroncelli,
ouais,
y a eu quelque part une acceptation,
oui,
de notre zigane.
Oui.
Au moins quelque part.
Oui.
Parce que... Je reviens là-dessus parce que moi, quand j'étais petit, que j'étais chez ma grand-mère, il y avait des roulottes de Romanichel, on disait, qui passaient. Alors tout le monde, évidemment, garait ses poules, ses enfants, je t'en passais des meilleurs. Il y en a qui fermaient leurs portes à triple tour, d'autres qui achetaient un panier ou qui se faisaient lire les lignes de la main de peur que, sinon, on leur jette le mauvais œil.
Voilà. C'est comme ça, tu vois. c'est comme ça. T'as remarqué que je le faisais pas devant toi. Je le fais de
côté. Oui, alors je vous signale que Jeanne est en train de me montrer. Dressé.
Et quand on voilà. te fait, tu fais ça avec ton index et ton majeur.
Donc elle croise l'index et le majeur des deux mains pour se protéger du mauvais œil. Eh ben, ce que j'espère, Jeanne, c'est que cette première émission, d'abord, aura enseigné un certain nombre de choses qu'on ne connaissait pas. Moi-même, personnellement, j'en ai appris plein, alors que je suis déjà un petit peu initié. Et puis que, au cours des prochaines émissions, là, on a eu Jeanne qui est en train de passer... c'est quoi exactement ?
Une thèse de doctorat.
Une thèse de doctorat. Donc, comme quoi une semi-gitane peut être autre chose qu'une vendeuse de panier.
Exact.
Et puis, dans les futures émissions, on rencontrera une sociologue, on rencontrera des musiciens, des poètes, des fabricants de paniers. On va essayer de faire un petit tour de ce monde zygane et je crois qu'on va apprendre de belles choses qui vont casser tous les clichés qu'on a dans la tête.
Écoute, je ne te dirai qu'une seule chose, Toves Bartalo. C'est une bénédiction, ça veut dire que la chance soit toujours avec toi.
Eh bien, je te remercie, Jeanne. Je te remercie à double titre. D'abord pour ta bénédiction et ensuite pour cette participation à cette émission. Et puis, j'espère qu'on se reverra parce que c'est un plaisir.
Ma porte est ouverte.
Eh bien, écoute, on va dire au revoir à tout le monde, au technicien qui va glisser des petites musiques, des petits poèmes au milieu de tout ça, et puis aux auditeurs qui viennent de nous écouter.
Et amis auditeurs, n'ayez pas peur, on est des gentils, on est libres, on est drôles, on aime le vent, la nature et tout ça, Et si on vole, dites donc, c'est pas nous qui avons fait sombrer l'économie mondiale, hein ? C'est plutôt les banques.
Allez, au revoir Jeanne et merci.
Au revoir.
Je vous ai dit que Jeanne Gamonnet écrivait. Eh bien, pour finir cette émission, je vais vous lire un poème. Un poème qu'elle a écrit. Ce poème a été écrit sur le coup de l'émotion quand elle a visité le camp de Buchenwald en janvier 2001. Il a pour titre « Seuls les corbeaux ». Depuis que j'ai ouvert le livre de l'histoire, ce ne sont plus les étoiles que je compte à la nuit tombée. Je compte les tombes de mes frères, tombes volées, si légères que le vent par milliers les disperse, et nul devant elles ne s'agenouille. Je veux savoir pourquoi l'histoire des Roms s'est écrite entre le vent de Dicin, lorsque s'est déchiré le voile du temple, et le matin de Pâques. Tant sans Dieu, tant maudit d'un Dieu mort. J'ai compté les images de Dieu, images sans oreilles. Dieu sourd. Depuis que les soldats vêtus de noir ont interdit aux Roms de chanter, combien de chants étouffés dans leur gorge. J'ai compté les images de Dieu, images sans yeux, Dieu aveugle. Depuis qu'ils ont mitraillé les Roms dans les forêts, combien de corps sont restés déchiquetés sur les routes d'Europe. J'ai compté les images de Dieu, images sans bras, Dieu manchot. Depuis qu'ils ont enfermé les Roms dans les camps, combien de Roms libres, combien de garçons et de filles Roms libres, engrugés entre les barbelés. J'ai compté. Où est le berceau, Maria? Où est le berceau vide? Le berceau nu et pleuré dans lequel plus jamais ne rêveront des enfants Roms. Ils ont tranché le ventre de la jeune épouse pour qu'il devienne cimetière. Combien d'enfants ne sont plus nés? J'ai compté. Nuit après nuit, je ne peux plus dormir. Je compte. Nuit après nuit, j'interroge le ciel. Je ne trouverai pas de réponse. Je le sais. Seuls les corbeaux se souviennent.